Vous écoutez, on lit pour vous.
Bienvenue à la clientèle autiste. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 15 juillet 2024 dans La Presse. Du géant Walmart à des entreprises québécoises comme Saint-Hubert ou même le Centre Bell et l'OSM. Les commerces se réinventent pour inclure la neurodiversité de consommateurs qui ne demandent qu'à les visiter. Les dimanches midi, on tamise les lumières dans certains restaurants Saint-Hubert. On réduit aussi l'intensité de la musique et on s'assure que certains clients ont les meilleures tables, celles qui sont en retrait, pour plus de calme et d'intimité. Ces clients dont on prend bien soin ont des conditions neurologiques diverses. Ce sont souvent des personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Et elles trouvent parfois les sorties au restaurant plutôt pénibles. Alors, elles préfèrent ne pas y aller, ce qui parfois prive des familles entières d'un bon moment. Or, la clientèle autiste existe et ne demande qu'à vivre ses expériences et à consommer, comme tout le monde. Chez Saint-Hubert, cette inclusion dans les salles à manger est d'abord passée par un projet pilote en 2023. Une centaine de familles se sont rendues dans les 4 restaurants qui participaient au projet. C'était très touchant. Pour plusieurs personnes, c'était une première sortie au restaurant en famille, explique André Pereira, responsable de l'éducation aux adultes et de l'employabilité chez À pas de géant, l'institution qui a travaillé avec Saint-Hubert sur ce projet. L'adaptation de l'offre pour les consommateurs autistes se multiplie. Le mouvement est global et il s'accélère. Walmart Canada a annoncé la semaine dernière qu'il y aurait désormais un environnement sensible les lundis, mardis et mercredis matin dans ses magasins. La chaîne teste le concept aux États-Unis depuis quelques mois, alors que l'on peut faire son magasinage sous un éclairage moins agressant et sans radio en bruit de fond le matin de 8h à 10h. L'idée étant de réduire le stress visuel et sonore environnant, une ambiance qui plaira à plus d'un client, neurotypique ou pas. Des trousses d'accueil. Chez Saint-Hubert, 13 restaurants participent désormais au programme d'inclusion. À terme, l'idée est d'offrir les services dans tous les restaurants. Cet été, on veut voir comment on pourrait adapter ce projet-là aux Rôtisseries Express, dit José Vaillancourt, directrice des communications de Saint-Hubert. Dans les salles à manger, la clientèle a droit à une trousse sensorielle qui comprend notamment des coquilles pour éliminer le bruit et un petit minuteur qui permet de mieux évaluer concrètement le temps qu'il faudra pour recevoir son repas ou de savoir combien de temps il reste avant le départ. Le consommateur peut visualiser les étapes, ce qui est rassurant. Si les familles sont les clientes naturelles pour ce genre de programme, on peut très bien imaginer qu'un adulte voudra s'offrir une sortie seul, en sachant que l'établissement qu'il visite a une certaine sensibilité à son état. Les trousses sont offertes en tout temps, dans les restaurants participants. Saint-Hubert a travaillé avec la Fondation Autiste et Majeur en partenariat avec À pas de géant. La chaîne québécoise offre aussi sur son site une visite virtuelle qui permet à tous ses clients de trouver des repères avant d'aller sur place pour réduire l'inconnu et les imprévus qui font monter la nervosité pour tous. Baisser le ton. Dans certains lieux, c'est tout un défi de baisser le ton. On travaille avec les Canadiens de Montréal depuis 2 ans pour rendre le Centre Bell plus inclusif, annonce André Pereira, responsable de l'éducation aux adultes et de l'employabilité chez à pas de géant. Plusieurs initiatives sont menées de front par le groupe CH qui offre lui aussi des heures de magasinage plus tranquilles le dimanche matin à la boutique du Centre Bell. Il y a toute une clientèle potentielle, appuie André Pereira. En tourisme notamment, c'est un des groupes qui a la plus grande croissance. Les parents qui vont trouver un hôtel qui permet l'enregistrement facilité deviennent des clients loyaux. Aéroport de Montréal a bien saisi l'importance de faciliter les déplacements d'une clientèle neuroatypique, quel que soit l'état ou l'âge du voyageur. En plus d'un service d'accompagnement déjà offert, ADM vient d'adhérer au programme Tournesol, lancé en 2016 à l'aéroport Gatwick, en Angleterre. Depuis 10 ans, il y a aussi cette journée « Enfants en première » où l'on accueille des petits passagers présentant des troubles du spectre autistique et leur famille à l'aéroport Montréal-Trudeau. Ils vivent tout le processus, dont l'enregistrement et le contrôle de sécurité de l'aéroport. Cette année, 200 personnes ont participé à la journée, mentionne Sarah-Ève Delisle, chef accessibilité et réglementation chez ADM. Ce sont surtout des familles qui participent à l'événement, organisé notamment en partenariat avec Air Transat, Autisme Montréal et Apogéan. Ça leur permet d'évaluer la faisabilité d'un voyage en famille, précise Sarah-Ève Delisle. ADM travaille aussi sur un projet pilote qui permet à des passagers d'être accompagnés d'un chien de son escouade canine pour faciliter le trajet dans l'aéroport, un processus qui peut être stressant pour de nombreux voyageurs. Aller au concert, enfin. Les entreprises culturelles ont, elles aussi, de plus en plus de programmes d'inclusion qui permettent à de nouveaux spectateurs de franchir leurs portes. L'OSM a présenté ces 2 dernières années 3 concerts décontractés qui permettaient à une nouvelle clientèle de s'y sentir bien. Comment? En laissant les portes ouvertes, en réduisant moins la luminosité. Les concerts se donnent généralement dans un environnement plus sombre. On a aussi aménagé des zones de calme à l'extérieur de la salle pour les spectateurs qui ont besoin d'un répit durant la prestation. La musique est la même pour tous, mais elle ne résonne pas pareil pour tous, dit Mélanie Moura, chef de la programmation jeunesse et de la médiation à l'OSM. Dans tout concert de l'OSM, chaque personne qui est assise a son histoire, ses réactions, ses émotions, dit Mélanie Moura. Oui, il y a des différences cognitives, neurologiques, comportementales, de handicap. Mais comment arrive-t-on à vivre ensemble une expérience réussie? C'est ce qu'on s'est demandé à l'OSM, après avoir fait des ateliers avec des jeunes de toutes les conditions. L'orchestre songe à normaliser certaines adaptations, les zones de calme à l'extérieur de la salle, notamment, parce que ça peut arriver à n'importe quel spectateur d'avoir besoin de prendre quelques respirations. La salle de concert peut aussi être un lieu sécurisant, plutôt que de faire peur, affirme Mélanie Moura. Un guide d'accès est aussi disponible pour tous, en ligne. Il indique tout simplement comment se déroule un spectacle, de l'arrivée à la sortie, pour la clientèle qui a besoin d'être rassurée. On essaie que les choses soient prévisibles pour éviter l'anxiété, précise Mélanie Moura, qui insiste. La musique, elle, est la même pour tout le monde. L'OSM n'est pas la seule. La TOHU offre des représentations décontractées. Et Espace pour la vie développe un projet qui comprend des trousses sensorielles et des vidéos. Le groupe comprend le biodôme, la biosphère, le jardin botanique, l'insectarium et le planétarium. C'était « Bienvenue à la clientèle autiste », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 15 juillet 2024 dans La Presse.
Churchill Falls. Malgré de nouvelles discussions, les Inuits peinent à se faire entendre. Un texte de Patrick Butler, paru le 1er août 2024 sur Récits Terre-Neuve et Labrador. Si Hydro Terre-Neuve et Labrador organise depuis 6 mois des discussions périodiques avec la nation Innu du Labrador sur la renégociation du contrat de Churchill Falls, le grand chef Simon Pokou croit que les préoccupations de son peuple tombent toujours dans l'oreille d'un sourd. Selon le grand chef, des conversations très limitées avec la PDG d'Hydro TNL, Jennifer Williams, ont eu lieu pour la première fois au début de l'année, soit quelques semaines après qu'un ex-chef Inou a déploré l'absence totale de consultations sur l'avenir de Churchill Falls. « Ce n'est pas assez », lance le grand chef catégorique. « Il faut que la province et que le Québec comprennent que ce sont des terres ancestrales Inou. Les projets qui s'y trouvent ont un impact réel sur notre vie. Nous sommes forts et nous n'allons pas jeter l'éponge. » Depuis février 2023, Saint-Jean et Québec négocient formellement l'avenir de l'imposante centrale de 5 428 MW, construite il y a un demi-siècle sur les terres ancestrales des Inuits sans jamais les avoir consultées. Terre-Neuve et Labrador veulent rouvrir le contrat sur Churchill Falls avant sa date d'échéance en 2041, pour négocier à la hausse le prix actuel de l'électricité qui n'est que de 0,2 cents le kilowattheure. Le Québec, qui achète presque toute l'énergie produite à la centrale, s'intéresse surtout à augmenter la production hydroélectrique au Labrador, soit en ajoutant aux installations existantes à Churchill Falls, soit en construisant un nouveau barrage à Gulf Island. Frustration chez les Inuits. La nation Inuit du Labrador, qui représente les 4000 résidents de Sheshatshiu et de Natwashish, menace de bloquer toute nouvelle entente sur Churchill Falls si l'histoire se répète et que de nouvelles installations hydroélectriques sont annoncées sans leur consentement. Le grand chef, Simon Pokou, explique que ce consentement dépend surtout d'un compromis avec Terre-Neuve et Labrador sur les redevances de Muskrat Falls, une centrale de 824 MW en aval de Churchill Falls. En 2021, quand la province et le fédéral ont restructuré les finances du projet de Muskrat Falls, une entente qui a évité l'augmentation fulgurante des tarifs d'électricité en raison des nombreux dépassements de coûts du barrage, ils l'ont fait aux dépens des Inuits. Selon ces derniers, la décision a réduit de 1 milliard de dollars sur 50 ans les revenus promis aux membres de la nation Inuit en vertu de l'entente Tsashpetapan qui a ouvert la voie à la construction de Muskrat Falls et de Gull Island. Après l'avoir suspendu pour permettre des discussions, la nation Inuit a relancé une poursuite plus tôt ce mois-ci afin de bloquer la restructuration des finances de Muskrat Falls, une entente conclue sans sa participation et qualifiée de trahison. On en avait assez. Les pourparlers n'allaient nulle part, alors nous sommes retournés devant les tribunaux, raconte Simon Pokou. Fury veut une solution à l'amiable. Le 19 juillet, le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, Andrew Fury, a indiqué que malgré les frustrations des Inuits sur Muskrat Falls, nous avons toujours de bonnes relations avec eux. On a eu des discussions à ce sujet, on a essayé la médiation et la consultation, et je vous dirais qu'on est toujours ouvert aux discussions pour trouver une solution à l'amiable, a-t-il soutenu. Il a aussi révélé que la PDG d'Hydro-TNL, Jennifer Williams, organisait des discussions périodiques avec la Nation Innu. La Nation Innu indique que 5 rencontres ont eu lieu depuis le début de l'année. Une rencontre entre le grand chef et la PDG, un appel téléphonique entre ces derniers, ainsi que 3 rencontres entre des fonctionnaires. Au moment de l'Assemblée générale annuelle de la Société de la Couronne, Jennifer Williams n'a donné que quelques détails sur les discussions en cours avec les Innu. Les Innu sont des partenaires très importants, a-t-elle affirmé en mêlée de presse. Nous leur avons fourni quelques informations spécifiques sur les discussions en cours. Comme vous le savez, je me suis déjà entretenu avec le grand chef. Depuis 2020, la Nation Innu poursuit aussi Hydro-Québec et la Churchill Falls Labrador Corporation, la société responsable du fonctionnement de Churchill Falls, pour 4 milliards en compensation des dommages causés par la construction des réservoirs et de la centrale de Churchill Falls, ouverte en 1971. Les Innu de Ouachat-Makmani-Outenam au Québec poursuivent aussi Hydro-Québec pour des raisons semblables, demandant 2,2 milliards de dollars en compensation. C'était Churchill Falls, malgré de nouvelles discussions, les Innu peinent à se faire entendre, un texte de Patrick Butler, paru le 1er août 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador.
Pourquoi peut-on vivre à Hiroshima et Nagasaki, mais pas à Tchernobyl? Un texte de Marine Sestès, paru le 7 août 2024 dans « Ça m'intéresse ». La vie, ou plutôt l'activité humaine, a repris dans les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki après les bombardements atomiques de 1945. Cependant, cela n'est toujours pas le cas dans la ville ukrainienne de Tchernobyl qui a connu un accident nucléaire majeur en 1986. La différence entre Hiroshima, Nagasaki et Tchernobyl réside dans la nature des explosions. Les bombes atomiques larguées au Japon ont explosé en altitude, ce qui a limité les contaminations au sol et les conséquences sanitaires, mais cela a eu des dommages directs importants. En revanche, lors de la catastrophe de Tchernobyl, l'explosion était plus petite et elle s'est produite au niveau du sol. Cela a libéré 400 fois plus d'éléments radioactifs dans l'atmosphère en laissant une grande quantité de retombées nucléaires dans la région. En ce qui concerne l'accident de Tchernobyl, ce sont la persistance de la contamination et le haut niveau de radioactivité qui font que la zone est toujours inhospitalière. Quand la ville de Tchernobyl sera-t-elle de nouveau habitable après l'événement nucléaire? L'accident nucléaire de Tchernobyl a eu lieu le 26 avril 1986 dans la centrale nucléaire de la ville après une erreur d'un opérateur et à cause d'un défaut de conception du réacteur. La catastrophe de Tchernobyl a provoqué un incendie à ciel ouvert qui a libéré des contaminants radioactifs. Pour assurer la sécurité des populations exposées, une zone d'aliénation a été mise en place sur 2600 km² autour du lieu de l'accident. La zone d'exclusion demeure inhabitable aujourd'hui et elle est considérée comme l'endroit le plus radioactif du monde. Le gouvernement ukrainien estime que la zone de Tchernobyl ne représentera plus de danger pour la santé dans 300 ans, mais les experts affirment qu'elle ne devrait pas être habitée avant 3000 ans. Est-ce que le site d'Hiroshima est encore radioactif aujourd'hui et est-ce dangereux d'y aller? Hiroshima n'est plus un site radioactif parce que la bombe a explosé en altitude et que les retombées radioactives ont vite disparu. Cependant, les bombardements d'Hiroshima ont tué 70 000 personnes sur le coup, puis 70 000 personnes dans les jours qui ont suivi à cause des brûlures. Autrement dit, 140 000 personnes sont mortes et la ville a été détruite, ce qui a porté un coup fatal au Japon. Parmi les survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, des études ont relevé, une augmentation de la fréquence des cancers de la thyroïde et des leucémies dès la première décade après les explosions. Bien que le risque de mortalité soit plus élevé à cause des conséquences sanitaires, le lieu est toutefois considéré comme habitable. Bombardement d'Hiroshima, pourquoi avoir fait le choix de larguer une bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki? Le largage des bombes Fat Man et Little Boy sur Hiroshima et Nagasaki par le bombardier B-29 Enola Gay a provoqué une explosion nucléaire qui a signé la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Cette attaque nucléaire a marqué les esprits par le caractère destructeur de cette nouvelle arme et par la découverte du mal qui se propage longtemps après l'explosion, les radiations. En plus de la fin de la Seconde Guerre mondiale, cet événement a fait entrer les relations internationales dans une nouvelle ère, avec la dissuasion nucléaire. Les raisons du choix d'attaquer Hiroshima et Nagasaki étaient donc politiques. L'objectif était de s'imposer sur la scène internationale. C'était « Pourquoi peut-on vivre à Hiroshima et Nagasaki, mais pas à Tchernobyl ?» un texte de Marine Sestez, paru le 7 août 2024 dans « Ça m'intéresse ».
L'été, c'est fait pour emportirer, un texte de Stéphane Dompierre, paru le 21 juillet 2024 dans La Presse. Eh bien voilà, on me détestait déjà parce que j'étais un piéton. Les automobilistes maudissent les piétons. C'est lent, ça a la priorité au passage piétonnier et ça cabosse la voiture en cas d'impact. On me détestait aussi parce que je suis un automobiliste. Tout le monde haït les automobilistes. Ils se haïssent même entre eux. Comme si les raisons de me détester n'étaient pas assez nombreuses, j'en ajoute une maudite bonne à la liste. Je viens de m'acheter un vélo. Je suis donc théoriquement un cycliste. Mais j'aimerais apporter tout de suite une nuance importante à ce sujet. Un cycliste, à mon sens, c'est quelqu'un qui s'habille en spandex jaune pour faire croire qu'il a gagné le Tour de France, qui obsède sur l'achat de roues les plus chères possibles et qui se rase les jambes pour faire son 50 km quotidien plus rapidement d'un dixième de seconde. Je ne suis donc pas vraiment un cycliste, mais rien d'autre qu'une personne qui possède un vélo. En attendant de se le faire voler, ce qui, statistiquement, devrait arriver dans les prochaines heures. J'ai habité à Pointe-Saint-Charles pendant une dizaine d'années. C'est un quartier du sud-ouest de Montréal, reconnu pour... ben, pour rien. Il y avait bien la Taverne Magnan, mais elle a fermé en 2014. C'est pendant que j'y habitais que je me suis débarrassée de mon vélo pour trois raisons. Je ne connaissais personne qui habitait assez près de chez moi pour que je puisse lui rendre visite sans arriver couvert de sueur bord en bord. Et j'étais à 45 minutes de route du bureau, en montée presque constante, avec un long passage sur la rue de la Commune, dans le Vieux-Montréal, faite de pavés bosselés. Non merci. C'est quoi la chose malodorante, tremblante, haletante et mouillée dans le coin de la salle? Oh, n'y faites pas attention, c'est notre collègue de Pointe-Saint-Charles. Il n'aime pas prendre le métro. Ça pue, qu'il dit. 2. Les pistes cyclables. Ils sont rares. Il n'y a qu'un cycliste dans le quartier, un barbu louche sur un vélo volé trop petit, qui revient du dépanneur une caisse de 12 entre les cuisses et une cigarette au bec en roulant au milieu d'une rue à sens unique à l'envers. 3. J'ai failli crever parce qu'un 10 roues tournait dans une entrée d'usine à ma droite et n'avait pas vu que j'attendais moi aussi le feu vert pour avancer. 4. OK, je l'avoue, il y a une quatrième raison. Le port du casque m'achalait parce qu'il défaisait ma flamboyante coiffure. Maintenant, j'habite à Rosemont. Me rendre au bureau prend 15 minutes en voiture et 17 à vélo. Ma blonde rêve qu'on aille en famille au marché Jean Talon et chez Milano en pédalant pour ensuite faire des pique-niques dans les parcs, attaqués par les fourmis et les joueurs de frisbee. J'ai donc fini par céder. Mais c'est fou comme les choses ont changé depuis ma dernière balade à vélo. D'abord, le casque ne défait plus autant ma chevelure, qui se définit moins par flamboyante que par dégarnie. Aussi, le code de la route ne semble plus être qu'une série de petits conseils facultatifs. Au nombre de fois où mon chien et moi on a failli se faire heurter par un cycliste qui ignorait son feu rouge ou son panneau d'arrêt, je comprends que l'arrêt est facultatif et peut-être même interdit. J'ai vu tout récemment un père qui mettait de la pression sur son fils d'à peu près 8 ans, les deux sur des trottinettes, pour traverser sur le feu rouge parce qu'il n'y avait pas de voiture. Le fils, réfractaire et stressé, a fini par suivre son père, apparemment bien fier de transmettre une si virile qualité, se mettre en danger pour rien. Il y a un certain temps, une cycliste s'est arrêtée à un stop pour me laisser passer, et je suis certain qu'elle ne pourra jamais oublier mon visage ébahi. Billy lui jappait après, convaincu que c'était un piège. Ce n'était que l'exception qui confirme l'absence de règles. Je me joins donc à la foule de hors-la-loi. Accueilli comme il se doit, ce nouveau cycliste a emportiré. Je blague. Pour ma sécurité, je m'en tiendrai autant que possible aux pistes cyclables que je partagerai évidemment avec une faune éclectique. Conducteur de bixi électrique sans casque, vieux monsieur hostile sur des scooters dangereusement silencieux ou de larges triporteurs décorés, couple d'amoureux distraits à trottinette, joggeurs professionnels, ceux pour qui l'asphalte des trottoirs ne convient pas à leurs chevilles d'athlètes de haut niveau, piétons égarés, clowns en unicycle et grand-mère en forme avec des bâtons de marche. Je crois que je vais surtout rouler dans les ruelles vertes finalement. Surveillez vos tomates, j'arrive. C'était « L'été, c'est fait pour emportiérer », un texte de Stéphane Dompierre, paru le 21 juillet 2024 dans la presse.